Courrier cadre, l'entretien.
Monstre sacré de l'éloquence, le célèbre avocat pénaliste Éric Dupond-Moretti nous a reçus pour nous confier ses bonnes pratiques pour une prise de parole réussie. Il se penche aussi sur ses méthodes pour construire une plaidoirie efficace, toujours empreint au doute qui agit encore aujourd'hui comme un moteur malgré l'expérience et les succès. Un entretien réalisé par Marie Roch pour Courrier cadre.
Un premier élément qui m'a frappé, et c'est aussi une question qu'on vous pose souvent, vous êtes fait tout seul, vous n'êtes pas issu d'une longue lignée de magistrats, d'huissiers, etc.
Ni longue ni courte.
Ni longue ni courte.
Vous avez raison.
Est-ce que ça a été un moteur dans votre réussite professionnelle, cette idée de faire ses preuves, de se faire tout seul? Ça a été un moteur pour vous?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a évidemment une forme de revanche sociale, bien sûr. En même temps, se faire tout seul, vous savez, c'est un peu immodeste et présomptueux. Le fait qu'on soit pas originaire d'une famille d'avocats, ça permet pas de dire qu'on s'est fait tout seul, parce qu'après, il a fallu qu'on rencontre d'autres avocats. Puis, le métier d'avocat, c'est un métier de transmission, transmission orale, transmission de la tradition, d'une certaine forme d'éloquence, d'une certaine liberté, d'un certain état d'esprit, donc tout ça. Au fond, le métier d'avocat, c'est la somme de tout ce qui existe déjà, plus ce que l'on y ajoute. Alors ceux qui sont issus de longues lignées, comme vous dites, bah, ils ont déjà commencé à engranger un peu de ces choses pendant l'enfance, l'adolescence, et puis ceux qui ne sont pas issus de longues lignées, ils apprennent tout ça. Mais on ne se fait pas tout seul, bien sûr que non.
Vous avez eu des mentors, des gens qui vous ont marqué, et de quelle manière, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, et à des époques précises qui ont été déterminantes?
Oui, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer deux avocats qui ont beaucoup marqué ma vie professionnelle. Jean Descandes, qui était avocat à Lille, puisque je suis à l'origine un avocat lillois, et Alain Furbury, qui est avocat à Toulouse. Alors Alain Furbury, je le rencontre dans des conditions un peu particulières, parce que à Lille, quand je prête serment, tout le monde me dit « mais on ne peut pas ne faire que du pénal, c'est pas possible. Dans la capitale des Flandres, il faut être généraliste, il faut faire de tout. Du droit de la famille, du droit social, etc. » Il y a un tas de choses que j'ai pas envie de faire. Donc je décide de m'exiler à Marseille. Je me disais « Marseille, il y a le droit pénal, ça peut faire quelque chose. » Mais personne ne veut de moi à Marseille. Alors je quitte Marseille, et sur les recommandations de Jean Descamps, je file à Toulouse, où Alain Furbury exerce. C'est là que je le rencontre, et on va se lier d'amitié très vite. Et il va être mon mentor, en dépit de la distance qui nous sépare, dans un premier temps, parce que je vais l'appeler chaque fois que j'ai une difficulté, un problème, chaque fois que je me retrouve confronté à une question que je n'arrive pas à résoudre. Et ensuite, on va plaider ensemble, beaucoup, souvent, très souvent. Alors le mentor, c'est fabuleux, parce qu'il vous transmet un enseignement, vous êtes avide et gourmand de recevoir. Et en même temps, le mentor, c'est toujours un peu dangereux parce qu'il y a le risque de l'imitation. Or, chez un avocat particulièrement, il y a un style et une patte. J'en sais rien, mais je pense que quand un chirurgien donne un coup de scalpel, j'imagine que le geste technique, c'est toujours le même. Mais chez l'avocat, pas du tout. Il y a autant d'avocats, et plutôt de styles d'avocats qu'il y a d'avocats. Donc le danger, c'est d'imiter et de faire du mauvais Furbury ou du mauvais Leclerc ou du mauvais je ne sais qui. Et au fond, de prendre tout ce qu'il y a à prendre comme une éponge et de transformer ça à sa sauce pour en faire sa propre patte et sa propre signature.
D'accord. Votre vocation est née de manière un peu originale. Alors j'ai lu que c'était par rapport au décès suspect de votre grand-père,
oui.
C'est ça? Est-ce que cet élément aussi a joué sur votre réussite professionnelle? Est-ce que dans tout métier, particulièrement celui d'avocat, il faut vraiment une vocation? On n'y arrive pas comme par hasard?
Alors, d'abord, je pense que c'est un peu un sacerdoce, ce métier d'avocat, et donc il faut une vraie vocation. Oui. Enfin, c'est mieux, en tous les cas, d'en avoir une. On n'est pas avocat parce qu'on a loupé les autres concours. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Encore que, vous savez, eh bien oui, ça arrive. Ça arrive que des gens se retrouvent là tout à fait par hasard et qu'ils se passionnent. Moi, ce n'est pas mon cas, j'ai eu la chance, je trouve que c'est une chance, d'avoir envie d'être avocat, sans bien savoir ce que c'était d'ailleurs. Bon, il y a l'histoire de mon grand-père, c'est dans l'ADN de ma famille. Et puis, il y a L'exécution de Christian Ranucci, ça c'est un truc qui bouleverse et qui nourrit mon romantisme d'adolescent.
Allez
savoir
c'est
pourquoi.
C'est pas possible de laisser faire ça, c'est pas possible.
Ouais, ça me dévore cette histoire et ça me terrorise en même temps. Et puis, peut-être l'idée aussi d'être seul contre tous, parce qu'être avocat, c'est souvent être seul contre tous. C'est comme disait Victor Hugo, aimer l'araignée et l'ortie. Et c'est comme ça que je décide, j'ai une quinzaine d'années, de devenir avocat. Et avocat pénaliste.
Vous êtes souvent mis en avant pour votre éloquence, vous avez gagné concours d'éloquence, conférence du stage, etc. Aujourd'hui, nos lecteurs cadres sont souvent mis en difficulté par rapport à ça, par rapport à la prise de parole en public. C'est un truc qui est un peu à la mode et qui pose problème aujourd'hui. En quoi ça vous a véritablement aidé, ça a porté aussi votre carrière? Le fait d'être à l'aise, le fait d'être... Est-ce que ça s'apprend?
Oui, alors d'abord, je vous prie de me croire, je suis très sincère, on n'est pas à l'aise tout de suite. Hein. J'ai passé de nombreuses années à avoir peur, à lutter contre ma peur, et quand par malheur la peur l'emporte sur le reste, vous entendez plaider, vous ne prenez aucun plaisir à le faire, vous êtes un peu tétanisé, évidemment le discours est moins fluide, vous réussissez moins de choses, parce qu'il faut un peu de fantaisie, il faut un peu de liberté dans l'expression. Et quand vous avez la trouille, ça vous est interdit, tout ça. Et j'ai mis des années, moi je l'ai dit, et c'est vrai, pendant 10 ans, systématiquement, je vomissais avant de plaider aux assises. C'était une peur physique qui me prenait, et qui trouvait au fond son paroxysme dans le fait d'aller dégueuler, tellement j'avais la trouille.
Le stress, l'angoisse de l'échec.
Et juste après, ça allait un peu mieux. Puis le juste après, c'était le moment où on me disait, vous avez la parole.
Ouais. Oui, donc ça s'apprend.
Donc je sais que c'est difficile. Hein. Et j'ai partagé, et je partage encore le stress de ceux qui ont du mal à prendre la parole, à se lever, mais ça se travaille. Et puis ensuite, avec le temps, alors, la peur s'estompe un peu, il en reste toujours. Hein. Au profit d'une plus grande liberté dans la parole, dans le choix des mots, mais quand vous êtes à l'aise, d'abord au fond ça se sent, votre interlocuteur le sent, et vous vous permettez beaucoup plus de choses, vous êtes beaucoup plus libre. Et dans la forme, et même dans les idées d'ailleurs. Parce qu'il y a des idées parfois audacieuses que vous n'osez pas exprimer si vous avez la trouille, vous êtes un peu coincé par un texte ou par une architecture. Moi, j'écris pas mes plaidoiries, mais il y a une architecture de mes plaidoiries, bien sûr. J'écris les principaux titres. Enfin, et donc, je comprends que... D'abord, je partage le stress de vos lecteurs qui ont à s'exprimer en public. Mais je leur dis également que ça s'arrange.
Ça s'arrange.
Ouais, ça s'arrange.
Il y a une autre particularité qu'on vous attribue, c'est évidemment lié à votre activité, mais c'est ce rapport de force que vous mettez dans l'exercice de votre métier, cette défiance que vous suscitez un peu aussi. Est-ce que c'est une bonne, enfin c'est une manière efficace selon vous d'obtenir ce que l'on veut, de gagner? C'est pas systématique. Je mets ça en parallèle toujours avec nos lecteurs dans des négociations, dans des choses comme ça. Ce rapport de force est quelque chose d'important.
D'abord, c'est un résumé ce que vous dites. Et comme tous les résumés, il manque un peu de nuance. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi? L'avocat, d'abord, il n'est pas invité à la table judiciaire. D'ailleurs, on l'appelle, retenez cette expression, elle est singulière, un auxiliaire de justice. Alors que ça devrait être un partenaire de justice. Mais en fait, l'avocat, c'est un emmerdeur qui vient dire à un juge qui ronronne que peut-être il se trompe. Et là, vous avez deux types d'interlocuteurs. Ou le juge, gourmand du contradictoire, qui d'une certaine façon vient le rassurer dans sa prise de décision. J'écoute ce qu'on me dit en face et ce que me dit l'avocat parce que je ne veux pas me tromper. Et ce juge-là respecte l'avocat. Et le juge qui respecte l'avocat et qui aime l'avocat est un grand juge. Et puis vous avez l'autre, l'arrogant en chef, qui lui, de toute façon, n'entend que ce qu'il veut entendre. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Celui-là, il ne respecte pas l'avocat. Voilà, il a lu un dossier, il s'est forgé une idée, il ira jusqu'au bout de son idée. Dans une psycho-rigidité judiciaire qui est une forme d'insupportable arrogance. Alors celui-là, il faut le secouer de temps en temps, oui, bien sûr. Parce que le rapport que l'on a avec les êtres, et en particulier avec les juges, c'est soit un rapport de respect mutuel, soit un rapport de force. Si vous ne m'écoutez pas quand je vous parle à cet instant de l'interview, je vais vous envoyer bouler. Je vous dis, attendez, on plie bagage, ça n'a aucun sens. Et si moi, de la même façon, je n'écoute pas les questions que vous me posez, ça n'a pas de sens non plus. Il faut au moins pour une discussion qu'on se respecte. Alors vous imaginez, pour rendre la justice, vous êtes magistrat et vous êtes fait une idée sur la personnalité de l'accusé. Et moi, je vous propose autre chose que ce que vous avez pu à un moment donné songer. Ben, il faut que vous m'écoutiez. Et que vous ayez la capacité de vous dire peut-être que je me suis trompé. Au fond, le grand juge, c'est d'abord quelqu'un qui se méfie de lui, de ses a priori, de ses emportements, et même, j'ajoute, de ses opinions politiques. C'est en ça que, où votre place, elle est acquise et vous êtes attendu, et moi, j'ai jamais eu l'ombre d'une difficulté avec un magistrat qui me respecte, ou bien j'ai le sentiment d'être une espèce de pot de géranium, là, planté devant l'accusé, de ne servir à rien. Et là, évidemment, les choses ne se passent pas facilement.
D'accord. Vous avez aussi des activités artistiques, ouais. Films, théâtre, romans. Est-ce que c'est pas, y a pas un risque de, je vais pas dire, oui, de perte de crédibilité par rapport à votre métier d'avocat ? C'est pas quelque chose qui vous effraie ? C'est pas.
Non, d'abord, c'est quelque chose auquel c'est quelque chose que j'ai réfléchi, que j'ai pensé longuement. Et avant d'écrire, et avant d'aller sur scène, etc. Écoutez, moi j'assume ce que je fais parce que cette partie-là de mon activité, d'abord je ne considère pas qu'il s'agit d'une activité professionnelle. C'est ce que je fais de mon temps de liberté. Bon. Et j'ai passé ma vie à défendre la liberté des autres, j'entends définir le périmètre de la mienne. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Et si je jouais au golf, par exemple, est-ce que quelqu'un me dirait quelque chose ? Non, sûrement pas. Bon, je vais au théâtre, par exemple, en ce moment, et d'ailleurs, j'explique au théâtre ce qu'est le métier d'avocat, parce qu'il est totalement inconnu, pour ne pas dire méconnu. Le tout, c'est de ne pas masquer les choses. Les gens qui viennent me voir savent que j'ai cette activité annexe, mais ils savent que je l'ai. Et par ailleurs, il vaut mieux avoir une activité connue, genre le théâtre ou l'écriture, plutôt que de faire des choses bien plus moches qui seraient cachées. Il n'y a rien à dire d'autre.
Comment vous sélectionnez les projets sur lesquels vous allez ou non ? J'imagine qu'on vous propose des choses que vous refusez.
Vous me parlez de quoi, là ?
De projets de films. Non, c'est, je pensais au film de Lelouch qui est venu vers vous, vous n'avez pas hésité.
Enfin, voilà. Un ami, et puis l'idée de son film, du film dans lequel je joue, elle a jailli dans son esprit un jour où il m'a accompagné devant la cour d'assises, où je plaidais. C'est une après-midi, je lui ai dit viens, il souhaitait le faire depuis longtemps. Il a regardé, écouté les différentes interventions, celles du procureur, la mienne. Et puis il est sorti de là, et comme c'est un type que je considère comme un génie, parce qu'il va très vite, le soir, nous dînions ensemble, et il m'a dit, voilà, j'ai un projet de film. Et en quelques heures, pour ne pas dire en quelques minutes, il avait trouvé un scénario. J'ai accepté ça parce que ça m'amusait beaucoup. Le thème était très très beau. C'était un président de cour d'assises qui fréquentait une prostituée. C'était un président de cour d'assises de province avec toute l'aura d'un magistrat de province. Et il recevait une leçon de vie d'une petite pute. Et je trouvais ça tellement beau et tellement humain que j'ai évidemment accepté de le faire. Puis vous voyez, il y a des trucs que j'ai refusés, je ne vous dirai pas lesquels. J'ai eu beaucoup de propositions, j'en ai refusé beaucoup. Il y a deux ou trois choses dans lesquelles je me sentais bien. Voilà, moi, ce n'est pas mon métier. C'est une très belle parenthèse dans ma vie. Tout ça, ça m'éclate comme pourrais vous dire si je me lâchais. Mais bon. Et vous savez, si je faisais... Non, mais c'est curieux comme mais je sais pourquoi ça peut choquer. Je veux vous dire, je sais pourquoi ça peut choquer. Parce que moi, avant même d'imaginer que je ferais du cinéma ou du théâtre, je revendiquais déjà la théâtralité. On parlait tout à l'heure d'expression. Il y a une théâtralité dans la parole de l'avocat. Regardez, d'abord, il a un costume, il a une robe. Mais c'est pas le seul à avoir un costume. Hein. On est dans une salle d'audience, il y a des colonnes, il y a une sonnette, il y a un rituel, on est dans la théâtralité. Bon. Mais le procureur aussi, il est dans la théâtralité. Et même l'accusé qui joue sa peau, il est dans la théâtralité. Bon. C'est la théâtralité de la vie, elle existe. Donc moi, je l'ai toujours assumé. Alors ça fait dire à des gens, ah ouais, mais l'avocat, c'est un comédien. L'avocat, il met en forme un propos, donc il essaie de séduire. Évidemment, il essaie de présenter son dossier le mieux possible. Donc il est dans cette théâtralité qu'on doit, si on est honnête, on doit la revendiquer. Et si on n'est pas honnête, on l'écarte d'un revers de manche en disant ça n'a rien à voir dans le prétoire. Mais c'est pas vrai. Bien sûr que oui. C'est ça l'histoire. Et donc la dualité entre le métier d'avocat et puis un petit parcours théâtral, les gens disent « Ah oui, mais l'avocat, c'est un acteur. » Bah oui, c'est aussi un acteur.
D'un côté, c'est pas sérieux.
Oui, c'est ça. Mmh. Voilà. Moi, je dirais pas c'est pas sérieux, je dirais plutôt c'est pas sincère, c'est pas authentique. Or, je veux dire, chez l'avocat comme chez l'acteur, s'il n'est pas authentique, ça se sent tout de suite. Voilà.
Je reviens un petit peu au monde de l'entreprise. Vous avez démarré au Prud'homme.
Oui, c'est vrai.
Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution du droit du travail qui a été bouleversé ces dernières années ?
Pardon, j'ai commencé effectivement au Prud'homme parce que je ne trouvais pas de pénaliste à Lille pour m'accueillir. Donc j'ai fait le tour, c'est Marseille, Toulouse, etc. Je suis rentré à Lille. Et le soir où j'ai prononcé le discours de rentrée, vous savez, les avocats font une rentrée tous les ans, hein, et j'avais gagné la conférence. Donc il y a un avocat qui était un avocat d'affaires qui est venu me proposer un boulot à mi-temps. Alors c'était une embellie formidable pour moi parce que, à la fois, j'assurais le casse-croûte, j'étais payé, j'ai fait enfin une collaboration, et le mi-temps qui me restait, il était consacré à développer une clientèle que je voulais exclusivement pénale, à l'époque. À l'époque, c'est en 84. Et donc, dans la partie imposée, dans l'exercice imposé, j'allais plaider des dossiers qui étaient préparés par un patron qui était un des spécialistes du droit prud'homal, côté patron d'ailleurs. C'est assez paradoxal, la vie, c'est... Et donc j'allais en conciliation, vous parliez tout à l'heure de rapport de force, de conciliation, et j'allais partout en France, déjà à l'époque, mais pour plaider devant les prud'hommes. Alors moi j'adorais le prud'homme parce que c'est une juridiction populaire, enfin. C'est pas une juridiction professionnelle. Il y avait, de façon caricaturale, les patrons d'un côté, les syndicalistes de l'autre. Ça bataillait dur, enfin, c'était quelque chose de c'était une vraie bagarre. Et c'est là où j'ai appris mon métier. Et j'en garde un souvenir extraordinaire. Alors, vous parlez aujourd'hui de l'évolution de la juridiction prud'homale 35 ans plus tard, alors que je ne la fréquente plus, c'est très compliqué.
D'accord, ok. Quel type de manager vous êtes ? On a un peu l'image du métier de l'avocat seul, etc. Alors que vous avez une équipe autour de vous, comment vous managez ? Est-ce que vous êtes du genre à faire confiance ? Est-ce que vous déléguez facilement ?
Ça me fait rire parce que, d'abord, je pense qu'on a plusieurs vies en une. D'abord, j'ai été pendant des années une espèce de gitanos. Je prenais mon sac le lundi matin, je rentrais le samedi. Quand j'allais pas en prison le samedi d'ailleurs, la gestion, les ampoules à changer, les feuilles d'impôt à remplir, l'URSSAF, la CNBF, c'est pas moi qui m'en occupais. J'ai eu la chance d'avoir à l'époque, dans mon époque lilloise, un associé merveilleux qui acceptait ces tâches, cet échange. Moi je me... totalement... au-dessus ou en dessous de la mêlée. Ça dépend si vous placez le management. Voilà, ça dépend où vous mettez le management. Et puis, j'ai quitté Lille, pour venir à Paris. Et là, je me suis associé avec un jeune homme qui est un jeune homme qui a travaillé longtemps chez Herbert Smith, cabinet prestigieux s'il en est, et chez Metzner. Et qui, lui, a un sens de l'organisation qu'il m'a imposé, mais c'était évidemment consenti, je l'ai laissé faire. Et il a organisé, pour ne pas dire en ce qui me concerne, réorganisé complètement, un cabinet beaucoup plus structuré, avec l'expérience qu'il avait eue dans les cabinets d'affaires. Ce qui nous permet d'ailleurs d'assurer aujourd'hui des contentieux que moi, avant, je ne pouvais pas assumer. Donc il y a eu toute cette transformation, et pour n'en rien vous cacher, c'est parfois difficile, parce que j'ai 58 ans, mais je lui ai laissé carte blanche. Vous parliez de délégation, j'ai dit voilà. Voilà. J'ai jamais dit non à rien. Il faut modifier l'informatique, ok. Il faut créer une CELARL, il faut créer une ARPI, ok. J'en comprenais le mécanisme et je laissais faire tout ça. Et on a structuré quelque chose. Et en même temps que c'est parfois compliqué, parce que c'est une espèce de révolution pour moi, vous imaginez, je suis passé du mec qui prenait son sac à dos, qui faisait le tour de France, à un cabinet beaucoup plus structuré. Et en même temps, c'est un vrai rajeunissement. Parce qu'accepter à 60 ans une telle modification en profondeur, ben, y a quelque chose, y a une espèce de pari là qui est assez sympathique.
Vous avez une équipe de combien de collaborateurs qui travaillent étroitement avec vous ?
Là, on est deux associés, Antoine V et moi. Et puis on a... alors attendez, il faut que je les compte par locaux. Deux qui sont ici, deux collaboratrices qui sont ici. On a deux. Trois autres là-bas, un autre, ça nous en fait 6, 7, 8, 9, 9 collaborateurs pour le moment et des prestagiaires. Et puis ensuite, on a évidemment des secrétaires, assistantes et secrétaires, assistantes de direction secrétaires.
Et donc les autres jeunes avocats, vous travaillez étroitement avec eux sur les dossiers ou ils ont leur propre dossier ?
Alors, ils ont... pour certains d'entre eux, des dossiers personnels, évidemment, puisque on est une profession libérale, nous. Ils ne sont pas salariés, parce que maintenant, on connaît le statut de salarié, évidemment, dans la profession d'avocat, ce qui, moi, me fait un peu tiquer, mais...
Pour quelle raison ?
Parce que je suis un dinosaure qui pense que le métier d'avocat est une profession essentiellement libérale. Le contrat de travail, dans les vieux souvenirs prud'homaux que j'en ai, ils impliquent un lien de subordination. Alors, il existe aussi dans la collaboration, mais il est moins écrit. L'avocat doit rester libre, enfin, c'est symbolique, parce que l'avocat salarié ou l'avocat collaborateur, évidemment, il reçoit des ordres de son patron dans la réalité. Mais la symbolique, c'est important. Et ils ont naturellement, pour certains d'entre eux, des dossiers perso. Et puis, évidemment, ils travaillent les dossiers du cabinet. D'ailleurs, moi, j'interviens souvent en bout de chaîne, c'est-à-dire au moment où il faut plaider. Mais les dossiers, évidemment, ils sont préparés en amont, évidemment, forcément. Et donc, on ne peut pas tout faire tout seul, d'autant qu'on a un contentieux qui est important en volume et puis en difficulté aussi. Qu'on est aussi beaucoup à l'international. Et bon, vous savez comme moi que... Les dossiers difficiles méritent beaucoup de temps, et donc beaucoup de temps, c'est beaucoup de
regard.
De regard, bien sûr.
Vous parliez tout à l'heure du stress d'avant plaidoirie. Quelles sont vous avez des astuces, des petits rituels que vous faites pour vaincre un peu ce stress, surtout à la veille d'une plaidoirie capitale, comme vous avez pu.
Genre ce qu'on voit dans les yeux dans les bleus, là je mets d'abord ma chaussette gauche avant d'entrer sur... Non, pas du tout. Mais j'ai eu ça longtemps, hein.
Des rituels ?
Ouais.
Oui, de quel type ?
Alors, écoutez, c'était pour conjurer le sort. Mais en réalité, je me suis rendu compte que tout ça avait peu de poids sur le sortilège judiciaire. Donc, j'ai abandonné. Ben, je ne sais pas, À un moment, je mettais des boutons de manchette ou des trucs comme ça. Bon, bien après, j'ai complètement. Alors, après, comme j'ai eu de bons résultats avec des boutons de manchette puis de mauvais résultats avec, je me suis dit que ça doit pas. Boutons de manchette doit pas faire la différence. Donc évidemment, j'ai abandonné tout ça. Maintenant, je m'en fiche, mais complètement. Non. Mais j'ai eu ça longtemps, oui. Ben, en fait, ça permet de se calmer un peu, quoi. Ces conneries, là, en réalité. Hein, c'est de la magie noire, non? Bon, et j'ai renoncé à la magie.
Vous êtes souvent quand même du côté des méchants, entre guillemets, même si on voit que la frontière est ténue entre les voilà. Comment vous gérez la critique? Je vous ai entendu dire que vous recevez quand même de l'aide d'injures, ah ouais. De l'aide de menaces. Ça, c'est quelque chose qui peut déstabiliser même à votre niveau?
Des menaces, j'ai reçu une lettre de menace, à part en parler. Une, c'est ah pas
oui.
beaucoup.
Non, ça, c'est pas beaucoup. Non, mais vous parliez plutôt d'injures, oui.
Ouais.
De...
Bah, menace qui visait mes enfants. Puis... Ouais, pas très agréable, ça. Oui, des injures, bah, évidemment. Mais évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous avez vu d'abord que les réseaux sociaux, qui pourraient être l'instrument idéal d'une démocratie participative, c'est aussi une poubelle à ciel ouvert. Donc vous avez des mecs qui se déchaînent, là. Avant, quand ils racontaient leur saloperie au bar, tout le monde s'en foutait, mais complètement. Maintenant, ces saloperies-là, elles sont ramassées, elles sont enrobées et elles sont diffusées. Et évidemment, quand je défends un type comme Mera, je reçois des centaines de lettres d'injures. Puis après, je reçois la lettre du grand rabbin de Bruxelles qui me dit que dans les textes, dans le Talmud, il y a la justification de ce que je l'ai défendu.
D'accord.
Oui, il y a ça aussi, hein, il n'y a pas que des lettres d'injures. Et quand j'ai cette interview surréaliste avec Nicolas Demeurand sur France Inter, qui dénie à la mère Mera le fait d'être une mère, bah évidemment, il y a 500 mails qui arrivent dans la journée, même plus que ça, d'ailleurs, ma secrétaire pourrait vous le dire, qui disent, enfin, on est chez les fous, vous avez raison. Donc, on ne peut pas s'arrêter à ça. Puis quand on est avocat, vous savez, un justiciable, s'il gagne son procès, il est content, et s'il le perd, il est mécontent. Donc, on ne peut pas faire l'unanimité. Pas particulièrement dans mon métier.
Vous parliez de vos plaidoiries tout à l'heure. Vous rédigez une introduction, une conclusion. Vous avez quand même une architecture devant vous.
L'intro, souvent, parce que ça me rassure d'avoir une phrase d'introduction.
Il y a beaucoup d'improvisation, quand même?
Non, il n'y a pas d'impro. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par improvisation. Il y a l'intro qui est écrite parce que ça permet de prononcer les premiers mots dans la certitude.
Accroché.
Voilà. Vous bredouillez pas. Ça, quand vous les avez prononcés, ça vous rassure. Parce que vous avez mesuré le volume de la salle, vous avez posé votre voix. Bon, dans des débats d'assises, évidemment, vous l'avez déjà fait avant, puisqu'il y a eu les débats, vous avez interrogé les témoins, etc. Mais ce moment-là, c'est un moment particulier, le moment de la plaidoirie. Ensuite, moi, je travaille par thème. Alors, soit j'adopte... Et les thèmes doivent s'enchaîner de façon logique. Par exemple, je choisis un thème chronologique. Voilà, je vais vous raconter l'histoire. Et donc, on commence du début, et puis voilà ce qui s'est passé, et voilà, on a entendu... Soit je dis, bah, écoutez, voilà les éléments à charge retenus contre lui, on va en débattre, et voilà les éléments à décharge qu'il ne faut pas oublier. Ça dépend. Chaque dossier a son architecture. Mais au fond, c'est toujours les mêmes choses. Le tout, c'est de présenter des arguments et de les présenter avec un enchaînement logique. En essayant, alors ça, moi je suis très attaché à ça, de ne pas revenir mille fois sur les trucs. Parce que d'abord, vous prenez vos interlocuteurs pour des imbéciles, et ils le sentent. Et je pense que quelque chose de bien exprimé ne doit pas être repris, redébattu, rediscuté. Quand les choses sont claires, normalement, il ne faut pas y revenir.
Vous avez des moments de doute parfois?
Sur quoi?
Sur à la veille d'une affaire, sur vos...
Mais j'ai des moments de
capacité,
doute.
Enfin pas capacité,
oui,
mais
oui.
Sur...
Si, bien sûr.
Encore aujourd'hui?
Mais bien sûr. Mais non seulement j'ai des moments de doute, mais j'ai aussi des moments de certitude quand j'ai le sentiment d'avoir mal plaidé. Hein, c'est pas le doute. Le doute, c'est... Dans votre question, si je la comprends bien, c'est est-ce qu'avant, des fois, vous ne dites pas c'est comment je vais faire ? Bien sûr que oui. Mais d'ailleurs, c'est ce qui permet, quand les débats sont terminés, moi, je prends beaucoup de notes à l'audience. Hein. Et puis, à la fin, je dis, mais comment je vais faire pour expliquer ça ? Comment j'ai... Et parfois, je ne trouve pas. Et oui, j'ai des doutes. Et en même temps, c'est ce qui me pousse à réfléchir encore, et puis à trouver ou à essayer de dénouer ça. Bon, et puis après, il y a la certitude, quand vous sortez d'une audience, et d'ailleurs, quel que soit le résultat, et même s'il est bon, parfois vous dites, qu'est-ce que j'ai mal plaidé, j'ai plaidé comme une chèvre, j'aurais pas dû le faire comme ça, j'aurais dû le faire autrement, mais pourquoi j'ai dit ça ? Oui, mais heureusement d'ailleurs qu'il y a ça, parce que sinon...
Ça reste un moteur quand même.
Oui. Mais qu'est-ce que ça serait, un avocat ou un... quel que soit le métier, ou un patron, ou un journaliste qui aurait la certitude de tout le temps bien faire les choses, et qui, au fond, ne se poserait jamais de questions.
Vous avez dit...
Puis c'est douloureux.
Oui.
Hein. Puis c'est douloureux parce que, vous savez, moi j'ai connu ça, et puis je l'ai connu souvent. Vous quittez l'audience tard le soir, puis vous prenez votre voiture, puis vous allez devant une autre cour d'assises, puis... La route, elle est longue, là, quand vous avez le sentiment d'avoir mal fait le job. Ouais.
Vous avez gagné des affaires ingagnables et vous dites aussi que vous avez...
Que j'ai perdu des affaires imperdables.
Oui, c'est vrai. Ça fait partie de la vie professionnelle, cette irrégularité. Comment vous vivez ça ?
Je vais vous raconter ça. Je vais répondre à votre question par une anecdote. Il y a un monsieur qui a été jugé sur l'île de la Réunion. Et lors de son premier procès, il a été acquitté. Il est accusé d'avoir tiré sur un homme et... Bien. Le ministère public fait appel, le parquet fait appel, il est rejugé en appel, et là, il est condamné à 30 ans. Et puis, il forme un pourvoi en cassation, le pourvoi est rejeté, mais Strasbourg condamne la France et il a droit à un troisième procès. Elle a 12 ans. 0. 30, 12, j'ajoute au théâtre, parce qu'au théâtre on parle quand même beaucoup de métiers, je parle de cette affaire, je dis 0, 30, 12, 22, 18, 15, 9, numéro complémentaire le 7. L'aléa judiciaire, il est affolant, mais affolant. Parce que la justice, ça dépend. D'abord, c'est d'abord la signature de ceux qui la rendent. Donc...
Donc c'est des éléments que vous ne maîtrisez pas de toute façon.
Vous savez, même dans des choses purement factuelles, vous ne verrez pas la même chose que moi si on regarde le même objet. Et c'est vrai dans toutes les matières. Dans le domaine sentimental, dans le domaine artistique, et dans le domaine judiciaire, c'est pareil. Vous avez des juges d'une très grande sévérité, et des juges qui sont des gens cléments, et humains. Vous avez tout. Donc, oui, on se retrouve confronté à des situations qui sont des situations folles, parfois, d'un point de vue de la logique et de la rationalité. Alors, vous dites, c'est la vie. Oui. Oui, c'est la vie professionnelle, avec ses aléas. Mais ceux-là, ils sont durs à encaisser. Ils sont difficiles à encaisser.
Courrier cadre, l'entretien.